villa tu vrekke verklaaf malin rend smørbøl bøltistel venrenke ketflak. Je suis sûr que ça se prononce pas du tout comme ça.
Qu'est-ce que vous êtes en train de dire?
C'est des noms de housses de couette de Ikea. Parce qu'avec Anne, on est allé au Ikea et c'est ce genre de lieu, c'est piège pour moi, quoi. Parce que il y a le nom et je vais retenir le nom de tous les articles, quoi. En même temps, je me dis que c'est pas complètement absurde parce que si ça se trouve, si je vais en Suède un jour, je parlerai un petit peu, tu vois.
J'ai libéré l'histoire de ma vie de la puissante emprise de la mémoire pour la livrer au laboratoire de la création. Alors, la mémoire n'est plus la seule propriétaire.
Hypermnésia. F. Schems de Brouwer, Charlotte Ricato-Pfersdorf, Jean-Christophe Cassel, Olivier Després, Christophe Deleu, François Test.
Vous avez quelques difficultés aussi à l'échangeur à 35 à 36 à proximité de Mulhouse. On vous dit tout à la fin de ce journal. France Bleu Alsace ce matin.
Mais avant cela, un accident s'est produit hier soir dans le quartier du Port du Rhin à Strasbourg. Deux voitures sont entrées en collision. La conductrice d'un des véhicules a été gravement blessée. Âgée de 60 ans, elle a été transportée d'urgence à l'hôpital de Haute-Pierre. Les deux occupantes du deuxième véhicule sont indemnes. Un troisième véhicule est actuellement recherché par les gendarmes. Le chauffeur aurait pris la fuite. Les circonstances de l'accident restent inconnues. Une enquête devrait être ouverte.
La lumière.
Merci.
Bonjour.
Bonjour. Alors
moi, je vous conseille un café allongé avec du lait. C'est possible?
Oui, c'est possible, l'air allongé au lait.
Moi, je prends un Perrier.
Un Perrier.
Merci. Merci beaucoup.
Tu vois là ce qu'elle vient de dire? Il y a du feuilleté, il y a de la salade. Dans 10 ans, je me souviendrai exactement du ton de sa voix, de ce qu'elle a proposé au client. Tu sais, il y a ce truc où les gens qui, par exemple, les gens qui divorcent, puis qui décident de perdre complètement contact avec la personne. Tu vas tout brûler, tout mettre dans un carton et tout brûler. La totalité des choses qui te rappellent cette personne. Merci beaucoup. Ah. Et on dirait un cerveau. Ouais. Oh, les ailes d'un ange. Moi, je voyais comme les deux hémisphères du cerveau.
Ah non, le Perrier. Vous me dites assez ça vous.
Cette phrase-là qu'on dit tout le temps, le temps apaise les souffrances, que le temps passe et que le temps va faire son affaire. C'est ça qui se passe pas chez moi. Ce que j'ai raconté au serveur, regarde, c'est trop rigolo. Là, le dessin qu'ils ont fait avec le lait, on dirait vraiment deux hémisphères droit et hémisphères gauche du cerveau, quoi. Non mais... Si Anne, elle veut nous rejoindre, je ne sais pas si c'est exactement... Ah non, c'est pas elle, ok.
C'est pas par là la maison de Delphine là? Non?
Aucun rapport. Delphine elle habite à Cronenbourg.
Oui, mais avant elle habitait vers la Robertson. Non?
De qui tu parles? Tu parles de Delphine Saint-Pierre?
Mais oui.
Toujours habite à Cronenbourg. Tu vois Christophe, c'est assez fascinant parce que on est seulement à 10 minutes du centre-ville de Strasbourg et c'est carrément la campagne quoi. Moi j'ai toujours adoré venir marcher ici.
T'as lui amené des chevaux.
Donc, je t'ai pas expliqué, mais en fait, quand il y a eu l'accident, il faisait nuit. Il était déjà assez tard, on revenait du Norma. Et Anne, elle était super crevée parce que c'est une semaine où elle a énormément travaillé. Elle s'était endormie à côté de moi. Et c'est à ce moment-là que l'accident a eu lieu, c'est pas loin d'ici. On va pas pouvoir aller jusque là-bas.
Le médecin, il préfère pas que Kim, elle retourne tout de suite sur le lieu de l'accident,
parce qu'il a une lubie.
Il préfère pas qu'il y ait de nouvelles images du lieu de l'accident qui se créent pour Kim.
Non mais tu comprends rien là, Christophe, t'expliques pas bien du tout. Ce qu'il dit, c'est que quand je vais être sur le lieu de l'accident, ça va me faire penser à des milliards de choses dans la manière dont je fonctionne. Et que si j'y vais pas, je vais me souvenir de moi-même. Bon, je sais pas si j'ai mieux expliqué que toi.
Non, c'est plus clair. C'est là qu'on s'arrête.
J'exagère un peu. Voilà, c'est là. C'est exactement là. C'est là qu'il y a le bunker. C'est ça. Arrête-toi. Donc ça, c'est une espèce de frontière, là, imaginaire. On n'est pas censé aller plus loin. Si tu peux descendre, on va te montrer.
Alors ben moi, il se trouve que je suis la meilleure amie d'enfance de Kim. Je m'appelle Cécilia Darfeuille, j'étais avec elle donc depuis, depuis notre entrée au CP jusqu'en troisième. Donc oui, j'ai eu bien évidemment affaire à ce fameux pouvoir magique qui était quand même assez... qui nous posait pas mal de problèmes parce qu'il se trouve que du coup Kim avait des gros problèmes notamment pour comment je peux vous expliquer ça, disons que vous savez quand on est frère et sœur, il arrive qu'on se dispute, pareil quand on est meilleurs amis, il arrive qu'on se dispute et il se trouve que Kim avait vraiment du mal à oublier les disputes, à oublier les sujets de dispute. Donc plus le temps passait, même si on se rabibochait, finalement je sentais qu'elle était comme une bombe à retardement, en fait, comme un... qu'elle gardait toujours tout en elle, et même si elle arrivait, bon, parce que bon, moi j'oubliais relativement rapidement, je ne suis pas du tout rancunière à l'origine, mais elle, c'était un peu plus froid à chaque fois, il fallait beaucoup plus de temps pour qu'on redevienne amis comme avant, donc c'était assez, assez compliqué.
L'accident, il a eu lieu un tout petit peu plus loin là-bas, mais on voit rien d'ici parce qu'il y a la butte. Mais
vous pouvez aller jusqu'où?
Ben là, là, il faut qu'on s'arrête là. On n'a vraiment pas le droit de continuer. C'est juste ici qu'il faut s'arrêter. Tu vois, dans les séries américaines, là, ils déroulent des bandes en plastique jaune et noir avec écrit "Do not cross". Moi, le jaune, c'est singulier pour moi. Je prends énormément de Doliprane par rapport à mes migraines. Et tu vois, dans mon école primaire, il y avait le mur de la cour du bas, là, il y avait un gros mur au fond qui était peint en jaune, je sais pas pourquoi. Et après, il y avait encore des petits personnages. Et dans mon école maternelle, il y avait aussi une frise de poussin qui était aussi jaune. Il y a toujours... c'est comme ça que ça fonctionne un peu l'enchaînement. Tu vois, je me mets à penser à des choses... et je peux pas vraiment arrêter cet enchaînement. Tu vois, après, je vais penser... du sable, je veux penser, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un œuf, ça peut être la porte d'ascenseur, ça peut être la boîte de la poste, des bottes de pluie que j'avais qui étaient jaunes, et je sais pas, j'explique bien ou c'est pas?
Ah ouais, si, c'est clair, ouais, elle fonctionne comme ça, par association tout le temps.
Et depuis ce lieu où on est, de quoi vous vous souvenez par rapport à l'accident?
Je me souviens de rien. C'est le blackout. Bah, la seule chose dont je me souvienne, c'est un pompier, un monsieur des pompiers qui me posait des questions. Et l'accident avait déjà eu lieu. Et, on était dans la bagnole avec Anne et il y a une voiture qui a grillé la priorité à l'autre. On était trois voitures. Il y a une voiture qui est arrivée super vite et il y a la voiture qui était conduite par la vieille dame qui a foncé dans l'arbre. Et moi, comme j'ai regardé que la voiture qui a dévié, j'ai pas vu la troisième voiture dont les policiers parlent. Du tout. Et ils me charcutent, ils sont là, comme ça, à me demander à chaque fois c'était quoi la plaque d'immatriculation, parce que je sais pas pour quelle raison ils savent que je suis atteinte de cette maladie, que je me souviens de tout. Alors que je me souviens pas, puisque c'est le blackout.
Ça, c'est quand même ironique, quoi. En même temps, c'est une aubaine pour Kim d'avoir enfin un trou noir, et puis... Sauf que là, ça tombe mal. Ça aurait été bien qu'elle se souvienne. Puis là, je peux pas l'aider.
Je peux pas le dire.
Une aubaine, a dit madame.
Ouais, ça se dit aubaine.
Vous étiez assise à cette même place, là, à côté de votre sœur, le soir de l'accident. Mmh. Quel souvenir il vous reste ?
Pas grand-chose, en fait, parce que moi, je dormais au moment de l'accident. Et je me suis réveillée au moment où Kim a crié. Et bêtement, la seule chose que j'ai regardée, c'est la voiture de cette femme qui fonçait dans l'arbre. Et tu vois, j'ai pas pensé à regarder l'autre voiture qui lui avait grillé la priorité, apparemment. Et qui était en train de s'échapper, enfin de partir, quoi.
Maintenant, c'est complètement obsessionnel, quoi. Je ne fais que ça, regarder les plaques d'immatriculation, les retenir. Je marche 10 minutes dans la rue, j'en ai 200 dans la tête.
Moi, du coup, là, l'image qui m'obsède, c'est vraiment cette femme, là, étendue. Avec l'airbag contre elle. Et tu vois, depuis, je peux pas m'empêcher tous les jours de penser à elle, qui est dans son lit d'hôpital, qui s'est pas encore réveillée.
Quand vous étiez plus jeune, est-ce que vous avez essayé de trouver des solutions ?
De toute façon, j'ai vu énormément de médecins, donc je suis allée de consultation en consultation, et évidemment, j'avais un espoir immense. J'étais persuadée qu'ils allaient finir par trouver une médication, un traitement, quelque chose, voire une opération, tu vois. J'ai beaucoup, beaucoup pensé à cette idée que si j'avais moins de cerveau, si on arrivait à faire un trou dans ma tête et à créer de l'espace, j'accumulerais moins de souvenirs. Ça, c'est quelque chose, je voulais littéralement me cogner la tête contre les murs, quoi, pour secouer les neurones, pour faire un trou dans ma tête. Et en fait, il y a tellement de choses déjà qui se sont accumulées. J'avais 11 ans, 12 ans, j'avais l'impression déjà d'avoir des souvenirs comme les vieilles personnes, quoi.
Olivier Després, vous êtes enseignant-chercheur en neuropsychologie à l'Université de Strasbourg. Quels sont les effets psychologiques de l'hypermnésie ?
Si on prend en compte le cas de Gilles Price, qui est peut-être le plus documenté, comme conséquence principale, c'est que l'hypermnésie envahit leur vie. Ils sont contraints, sans arrêt, à se rappeler leur passé. Et Gilles Price, par exemple, dit souvent que lorsqu'on lui demande à quoi elle pense à l'instant T, lorsqu'elle raconte le souvenir qui lui vient à l'esprit, il y en a déjà un autre qui a pris la place. Donc c'est à chaque instant l'envahissement de l'esprit par le passé. Ils ne peuvent vraiment pas passer à autre chose et peuvent être très vite envahis par ces souvenirs qui, évidemment, vont jouer sur leur morale, sur leur humeur et leur état dépressif.
Finalement, avec la famille, disons, plus ou moins éloignée, tu vois, les cousins, les tantes et tout ça, on reste assez proches, mais c'est vrai qu'on les voit pas beaucoup, parce que finalement, très vite, ils sont un peu épuisés et lassés par leur rapport avec Kim. En fait, c'est un petit peu comme avec les petits copains. Pour Kim, c'est pas possible d'avoir une relation durable avec quelqu'un. Parce qu'en fait, elle va... Je sais pas, moi, si par exemple son mec lui dit un truc de travers un jour, ou s'il regarde la jupe d'une fille de manière un tout petit peu trop intense au resto, elle va lui répéter ça pendant des mois et des mois et des mois. Elle va ressasser ce qu'elle a l'habitude de faire, tu vois, elle va ressasser. Ou alors même, pire, elle ne va rien dire, et au bout de 6 semaines ou 3 mois, d'un seul coup, pouf, ça va sortir comme ça, et là, ça ne va plus s'arrêter. Et elle va le faire chier, mais jusqu'au bout. Donc, très vite, ça casse. Tu vois, il y a quelque temps, j'ai bu un café avec un mec avec qui elle était pendant un an, ce qui est quand même un exploit pour Kim. Un an de relation, c'est un exploit. Et lui, texto, il m'a dit, mais pour moi, Kim, c'est une machine. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, bah oui, au fond, c'est vrai, dans une relation de couple, ce qui compte, c'est ce qui se passe ici, maintenant, tout de suite. C'est pas ce qu'il a dit hier, avant-hier, avant-avant-hier, il y a 2 mois, il y a 6 mois. Au bout d'un moment, ça finissait par être pour lui complètement culpabilisant et dévalorisant. Donc, bah, il a craqué, quoi. Après, on peut peut-être pas tout remettre sur le compte de l'hypermnésie, parce qu'au fond, bah, regarde-moi, je suis toute seule aussi.
Et pourquoi vous vivez avec Kim ? C'est un choix ?
Bien sûr, c'est un choix. La laisser seule, c'est comme si je l'abandonnais, et puis c'est comme si je lui enlevais de sa vie la seule personne, moi pour le coup, qui peut représenter un intermédiaire entre elle et les autres. Et enfin, je peux pas faire ça. C'est ma sœur, quoi.
Donc, on est au laboratoire de neurosciences cognitives et adaptatives. Donc, il y a écrit Cassel Jean-Christophe, qui est le responsable d'équipe. Et moi, pour l'appeler, je dois faire le 51-950. Oui, monsieur Cassel ? Oui, on est là. On est au milieu du bâtiment. Voilà, exactement. En fait, je suis au petit interphone. Oui, merci beaucoup, à tout de suite. Donc, le monsieur qui va descendre, donc c'est monsieur Cassel que j'ai eu comme prof de neurosciences et qui a énormément compté pour moi. C'est quelqu'un qui, au moment où j'ai essayé d'y voir clair et de comprendre ce que j'avais, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup épaulé. Ah, super. Ah, c'est trop sympa. Bonjour.
Bonjour.
Je suis contente de
vous
voir.
Bonjour.
Monsieur Cassel, je vous présente, c'est Christophe Deleu et François Teste. Donc c'est eux qui font l'émission sur moi quand je vous
D'accord.
ai parlé.
Ok.
Bah, on arrive en plein milieu d'un truc pour vous.
On va juste à mon bureau, là je sors de mes dissections. Là j'ai passé la matinée à faire des dissections de souris. D'accord. Et je suis en train de récupérer parce que c'est un travail qui est assez dense, qui nécessite beaucoup de concentration. Entrez dans mon bureau. Prenez place.
Monsieur Cassel, il y a un truc qui va vous faire rigoler, ça va vous faire plaisir, c'est que le neurologue qui me suit en ce moment à Haute-Pierre, le docteur Bert, en fait il vous a eu comme prof. Et il se souvient que vous étiez hyper charismatique.
Écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça, sinon que ça me fait plaisir.
Oui, ça fait plaisir. Vous aviez dit que vous faisiez quoi en ce moment avec les souris ?
Alors là, je remonte du sous-sol, où j'ai disséqué un certain nombre de structures dans le cerveau de souris. Ce sont des souris chez lesquelles on a essayé de prolonger la durée d'un souvenir en leur administrant une drogue qu'on appelle le CSPTTK21. C'est une drogue qui va permettre à une souris de garder la mémoire de l'emplacement d'une échappatoire dans une piscine. On la lâche dans de l'eau et puis il faut qu'elle trouve une plateforme qui est cachée quelque part sous l'eau. Et quand on leur administre cette drogue, elles sont capables de retrouver cette plateforme pendant pratiquement une quinzaine de semaines, alors que normalement, le souvenir de l'emplacement de cette plateforme a disparu au bout de 15 jours.
Est-ce que ça vous embête de prendre quelques minutes pour expliquer à Christophe qu'est-ce que c'est que l'hypermnésie ?
L'hypermnésie, dans ce terme, on retrouve deux éléments. Hyper, quelque chose qui fonctionne excessivement, et mnésie qui renvoie à la mémoire. Donc l'hypermnésie, ce serait une sorte de mémoire qui stockerait beaucoup plus d'informations qu'une mémoire normale. Si vous me permettez, je vais faire une métaphore. Saint Augustin, dans son livre 10 des Confessions, quand il réfléchissait sur la mémoire, il la présentait ou il la comparait à une espèce de palais. Et dans ce palais, il y avait un certain nombre de pièces. Ces pièces avaient une taille donnée. Donc imaginez un palais d'une taille raisonnable, avec à l'intérieur des pièces d'une taille raisonnable. Et Saint-Augustin disait que chacune de ces pièces était capable d'accueillir des informations et de les stocker. Si je définis l'hypermnésie par rapport à cette image, en gros, vous auriez un palais beaucoup plus gros, à l'intérieur de ce palais, un bien plus grand nombre de pièces, et chacune de ces pièces serait plus grande. De sorte que, effectivement, cette mémoire puisse stocker beaucoup plus d'informations qu'une mémoire normale.
Je suis désolée, on s'engueule tout le temps. Oh la honte. Je te montre. C'est là qu'on habite. Là, c'est la chambre d'Anne. Là, c'est la mienne.
Si tu veux aller aux toilettes. J'ai un petit email à écrire et je vous rejoins tout de suite. Entre.
On s'aime beaucoup, mais. Non, en tout cas, par rapport à ce que je t'avais décrit, c'est que j'ai effectivement fait plein de recherches sur l'hypermnésie. Et donc, attends, je vais juste te lire. En fait, une personne qui est diagnostiquée comme hypermnésique, elle va retenir 99% de ce qu'elle vit, alors que une personne normale qui n'a pas trop de mémoire, elle va retenir 3%.
Est-ce que ça a des conséquences aussi sur votre mode de vie?
Moi, je trouve ça fatigant, quoi. Je trouve ça vraiment fatigant parce que il y a pas de répit. En plus, j'ai des sortes de, moi, l'expression que j'emploie, c'est toc. Je vais avoir une sorte de ping-pong mental qui s'arrête pas. Donc, par exemple, j'ai énormément de mal à m'endormir, voire pas du tout, quoi. Parfois, il fait jour à nouveau, et puis en fait, j'ai pas dormi pendant la nuit. Donc, je peux vraiment être en carence de sommeil. Et d'habitude, chez la plupart des gens, ces carences de sommeil, ça facilite le fait de ne pas se souvenir des choses, d'avoir de l'inattention, et chez moi, même pas. Par contre, là, c'est drôle, en parlant, je repense à l'accident et je me dis que... Ouais, c'est marrant, ça me fait penser, c'est une période où j'étais vraiment carencée en sommeil. Et c'est pas complètement impossible que je me sois endormie, peut-être. En tout cas, par rapport au sommeil, avec Anne, on peut être tellement différentes. Elle s'endort, mais elle s'endort comme ça. C'est dingue. On est en train de discuter toutes les deux. Elle commence à me répondre, et puis deux mots plus tard, elle pionce, quoi. Parfois, j'ai envie de la réveiller, quoi.
Tu finis ta phrase. T'as pas le droit de dormir.
Ah ouais, ça me rend fou, les gens qui s'endorment comme ça, hyper facilement, là. Je suis jalouse.
C'était en 2011, je crois. C'était à Strasbourg, on se voyait régulièrement le dimanche matin. On était à des séances de tai chi, en fait, dans le parc de l'Orangerie. Moi, je suis poète et romancier, donc j'avais besoin de travailler sur ma concentration. Et Kim, elle, c'était vraiment pour essayer de contrôler un peu ce flux d'informations qui fuse en elle. Et elle trouvait vraiment beaucoup de relaxation dans le tai chi. On est devenus très proches. On se voyait régulièrement, on allait souvent boire des cafés ou elle me racontait ses déboires avec sa troupe de théâtre qui lui faisait la misère, enfin c'était incroyable. Et on a eu une petite histoire de cœur sur un séminaire de tai chi à Bangkok. Bon, c'était léger, mais on s'apprécie beaucoup. Et moi, Kim me fascine énormément. Elle me porte, elle m'inspire beaucoup de mes personnages. Je suis vraiment fasciné par cette fille. Et à tel point que du coup, un jour, j'ai voulu lui écrire un petit poème pour me plonger dans sa tête, pour essayer de verbaliser un peu ce que cette jolie jeune femme vit au quotidien. Et donc, si je peux, je peux essayer de vous le lire, si ça vous va. Alors. Elle tourne en boucle et boucle en rond. Elle tient des comptes et décompte les heures, fait les 100 pas en passant le temps, perd le contrôle de ses humeurs. Le temps défile, ce n'est pas un leurre. Des souvenirs en perdition, remonte plus vite qu'un moussaillon. On est noyé d'informations, on perd le contrôle du bataillon. Le temps défile, qu'on le veuille ou non. Comment comprendre ses envies, anticiper ses coups de folie, elle qui partage plusieurs vies en un seul être réuni. Le temps défile, nul ne l'oublie. Elle tourne en boucle et boucle en rond, elle tient des comptes et décompte les heures. Elle tourne en rond et boucle les heures, elle tient des nombres et dénombre des ronds.
Tellement de ce short qu'il portait. Oh là 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 là, mon Dieu, il y avait une petite poche derrière là.
Comme c'était un short à toi, il y avait encore les fleurs derrière. Il avait trop la honte avec son truc.
Périgolo.
Oh, regarde comme t'es chou.
Il était super cet été-là.
Ouais, quand même, je m'en souviens bien de ça. Hein. Tu vois, là, c'était la maison qu'on avait louée à Sainte-Maxime.
Ah ouais, tu t'en souviens bien, aucun rapport, c'est pas du tout Sainte-Maxime, les maisons elles sont pas du tout comme ça, c'est à Osgore dans les Landes.
Elle a forcément raison là.
Regarde celle-là.
Oh là là.
Ah, je me souviens trop de ce pull.
Je crois que c'est la première fois où j'ai eu le droit de te porter dans mes bras.
Ouais, et là, alors regarde, sur l'épaule, tu vois, t'avais un pull, on voit pas très bien là, mais en fait, il y avait des tout petits personnages, des moutons, ça alternait. Mouton, petite fille, mouton, petite fille, mouton, petite fille, ça descendait tout le long de la manche comme ça. Oh, putain, je me souviens exactement là, tu t'es fait mordre par le chien de Marie-Christine, Arnold, dans les 87, était à Émoutier. Oh, je me souviens, c'était une maison invraisemblable, il faisait hyper froid, on était toujours avec des gros pulls, il y avait une sorte de carrelage dans l'entrée comme ça, avec des petits cerfs qui sautaient.
Tu vois, ça, c'est les trucs qui sont un petit peu pénibles quand même, parce que là, moi, quand je regarde cette photo, je me dis juste que j'ai l'impression que je suis hyper émue de porter ma petite sœur dans mes bras pour la première fois. Et en fait, elle se souvient beaucoup mieux que moi de tous les détails de ma vie à ce moment-là. Et enfin, parfois, quand je vais raconter un souvenir comme là, bon, c'est pas très grave de confondre Osgore et Sainte-Maxime, mais parfois j'ai des souvenirs qui sont pas forcément des vrais souvenirs, et si je le raconte, elle va tout de suite vouloir me détromper. En fait, alors que j'ai pas forcément.
Non, mais c'est que t'as l'impression que tu te souviens de quelque chose, et toi t'appelles ça souvenir, alors qu'en fait c'est juste quelque chose qu'on t'a raconté, tu vois la photo, et du coup tu t'imagines un truc.
Ouais,
en
mais
rapport.
Ce que moi j'appelle souvenir, j'y tiens parfois, j'ai pas forcément envie d'être détrompée à chaque fois. Et après, il y a des tas de situations et des tas de cas où c'est extrêmement pratique de pouvoir profiter de la mémoire de Kim.
Ça me fait penser à un truc. En 2002, elle devait aller à Bruxelles pour le boulot. Et en fait, elle me téléphone. Elle était sur le ring de Bruxelles. Le ring, c'est l'espèce de gros périphérique autour de Bruxelles. Et elle était complètement paumée. Elle savait où elle allait. Alors
je déteste conduire aussi, il faut dire. Donc,
on est tout le temps vraiment...
Non, et puis c'est le bordel là-bas.
Oui, c'est carrément le bordel. À un moment, il y a un embranchement où il faut le prendre. Et c'est vrai que c'est indiqué... vraiment pendant 2 secondes, c'est-à-dire s'il y a un camion qui passe, hop, tu loupes la sortie. Moi, je me souviens très très bien, puisque une fois, on était allé avec les parents en vacances. Et donc, elle me téléphone pour que je lui fasse son GPS. Allô, je suis au McDo. Et donc, j'ai l'idée pour qu'elle arrive à l'heure à son rendez-vous.
Dans ces cas-là, je suis tranquille,
quoi.
Parce que je sais qu'avec Kim, il n'y aura pas de souci. C'est beaucoup plus pratique qu'un GPS, ouais. D'ailleurs.
Ah, mais ça me fait penser à un autre truc. En 90, elle avait reçu une sorte de poupée super belle en fait que moi j'adorais aussi et qui avait des petits vêtements brillants avec une grande fermeture éclair derrière. On n'avait jamais eu une poupée comme ça et tout, et en fait elle lui a foutu, je sais pas pour quelle raison, mais des vêtements tout pourris qu'on avait eu notre poupée, et je trouvais ça complètement...
Pourquoi tu racontes ça, Kim?
Ben parce que c'était vrai, quoi. Non, c'était incroyable d'avoir fait un truc
pareil. Mais pourquoi est-ce que tu racontes ça maintenant?
Ben parce que j'y pense, j'en sais rien, hein.
C'est chiant en fait, au bout d'un moment c'est chiant. Parce que là, tu vois, moi, l'impression que je peux avoir, c'est qu'en réalité, t'es en train de raconter un souvenir qui te vient comme ça. On sait pas pourquoi, on sait pas d'où ça vient, on sait pas quel rapport ça a avec ce qu'on est en train de dire.
Ben, c'est un rapport qu'on est en train d'y penser.
Vu ce que t'es en train de raconter, j'ai juste l'impression que c'est pour me faire culpabiliser parce que il y a 15 ans ou 20 ans, j'ai cassé une poupée à nous.
Ben ouais,
tu vois, ça veut dire quoi? Ça veut dire juste je peux
ben ça veut dire qu'il faut
passer mon temps à culpabiliser parce
choses,
que mes souvenirs sont pas des bons souvenirs, parce que je sais pas me diriger toute seule, parce que j'ai cassé tes poupées quand t'étais petite. C'est quoi le truc?
Non, mais c'est chiant, ça.
La mémoire, grosso modo, elle se subdivise en une mémoire consciente et une mémoire inconsciente. Et dans la mémoire consciente, on a coutume de distinguer ce qu'on appelle une mémoire sémantique, dans laquelle nous stockons nos connaissances générales sur le monde, d'une mémoire épisodique, qui est en fait une mémoire dans laquelle nous stockons les diverses situations que nous vivons, en nous rappelant l'endroit, en nous rappelant le moment où cette situation a été vécue, et bien sûr aussi le contenu de cette situation, et en particulier quand on en est acteur, on parlera d'une mémoire épisodique autobiographique. Et je pense en fait que l'hypermnésie dont souffre Kim est une hypermnésie autobiographique.
Oui, en fait, bah, souvent les médecins ils me disent que, par exemple, la mémoire sémantique, c'est le fait de savoir que Paris est la capitale de la France.
C'est absolument ça.
Et que la mémoire épisodique, c'est que tu te souviens du jour et du contexte où tu as appris que Paris est la capitale de la France. Et que moi, en fait, je vois que c'est extrêmement dominant chez moi. Je vais toujours me souvenir, avec un nombre de détails hallucinants, du contexte dans lequel tout ce qui m'arrive, m'arrive.
Mais là, Jean-Christophe Cassel, vous en parlez comme si c'était fréquent, mais je ne crois pas que ce soit si fréquent que ça,
Non, pas du tout. C'est pas quelque chose de fréquent. Hein. C'est pas parce qu'on arrive à définir cette hypermnésie autobiographique avec facilité, en énumérant un certain nombre de critères qui la caractérisent, que pour autant c'est quelque chose d'ultra connu et de fréquent. Je crois, j'en suis pas tout à fait certain, mais qu'on recense actuellement moins d'une trentaine de cas dans le monde. Et donc Kim est un individu de ce point de vue-là tout à fait exceptionnel.
Alors comment on peut expliquer cette particularité? Enfin, je ne sais pas d'ailleurs. Est-ce que c'est une maladie?
Alors, de toute évidence, c'est une pathologie de la mémoire, hein, dans la mesure où il y a très peu de cas. C'est donc déjà statistiquement pas quelque chose de normal. Par ailleurs, je pense que si vous demandez à ces sujets de vous expliquer à quoi ressemble leur vie, je ne suis pas certain qu'ils sont heureux disposer d'une mémoire aussi exceptionnelle.
Est-ce qu'il y a une explication neurologique à cette pathologie?
Alors, je pense que la réponse la plus honnête, ce serait de dire non. On aimerait bien pouvoir en fournir une, d'explication neurologique. Il se trouve qu'on a cherché. Si vous prenez le cerveau d'un hypermnésique et que vous le comparez à une personne dont la mémoire est normale, il y a fort à parier que vous ne verrez aucune différence.
Le fait d'être la sœur de Kim, ça m'a quand même poussée à pas mal me poser des questions sur le fonctionnement de la mémoire et à travailler moi-même ma propre mémoire. Alors évidemment, c'est pas du tout de manière naturelle et spontanée comme Kim, mais en tout cas, j'ai beaucoup lu sur la question, et notamment l'ouvrage de Frances Yates, qui a été un petit peu ma bible pendant un certain temps. J'ai appliqué toutes les techniques de mémorisation qu'elle énonce, mais alors à la lettre. Puis après tout, on peut se dire, à l'échelle de l'humanité, quand même, avant l'apparition de l'écriture, on savait mémoriser des choses. Donc moi, quelque part, j'étais assez fière et contente de me retrouver à appliquer ces méthodes-là. Alors, pour faire simple, hein, le but, c'est de créer des lieux et des images dans lesquels je vais ranger tous mes souvenirs, mes pensées, mes idées. Je vais tout ranger dans des lieux ou dans des images. Par exemple, en ce moment, j'ai un client, on va passer en procès là dans quelques jours, il est stadié et en fait, il a été agressé par un supporter de foot. Alors, je commence par créer une image où mon client est au milieu d'un stade de foot vide, les gradins sont vides et il est en train de se ronger les ongles et de transpirer. Ça, c'est pour me rappeler que mon client est devenu agoraphobe depuis cette agression. Après, tous les éléments du dossier, tous les faits, tous les actes de procédure, je vais les ranger dans cette image. Je vais créer de nouvelles images et je vais les agréger à cette première image. En fait, ça va faire un véritable tableau à la fin, une fresque que je vais pouvoir aller consulter de manière mentale pendant tout le procès. Du coup, en règle générale, les magistrats sont tous un peu estomaqués et impressionnés parce que j'ai jamais aucune note pendant mes plaidoiries, jamais.
Anne, vous avez toujours voulu être avocate ?
Assez tôt, oui. Et dans mes rêves les plus fous, en fait, j'espérais que Kim et moi, on allait ouvrir un cabinet toutes les deux. Et en fait, Kim a fait une première année de droit et elle a arrêté à la fin de la première année.
pour Kim, évidemment, c'est très facile d'apprendre, je sais pas moi, le code civil par cœur, le code pénal par cœur. Elle peut recracher des textes de loi à l'infini, mais ça pêche toujours au moment des examens parce qu'en fait, comme elle est dans une accumulation des connaissances et des souvenirs, mais qu'elle n'est pas capable de les problématiser, eh ben, elle ne va pas avoir la capacité de mettre en rapport telle loi avec telle application de cas. Tu vois, elle n'est pas capable de synthétiser des choses, de les expliciter. C'est trop compliqué pour elle. Au fond, je me dis comme ça que pour Kim, le pire des exercices, ce serait la dissertation. Tu vois, thèse, antithèse, synthèse, c'est impossible.
Voilà, je suis Després Olivier et je suis neuropsychologue. Et donc, c'est avec moi que vont débuter les évaluations de votre mémoire, Kim. Je sais que vous connaissez un peu les principes, que ce n'est pas la première fois, et je vous remercie vivement de bien vous prêter à ce jeu une nouvelle fois avec moi. Et comme premier test, si vous voulez bien, nous allons commencer par vous interroger sur des dates de faits célèbres.
Oui, je connais, ça ne me pose pas de problème.
Très bien. Donc, je pense qu'on vous a toujours donné le même exemple du 11 septembre 2001.
Ouais.
Très bien. Donc, je ne vais pas vous interroger sur cette date-là.
Vous n'allez pas m'infliger le 11 septembre.
Non, je ne vais, pas vous faire cet affront-là. Par contre, je vais vous proposer une autre date. Est-ce que vous pourriez me dire ce qu'il s'est passé le 11 mars 2004
Oui, c'est les attentats de Madrid.
Et vous pouvez m'en dire un peu plus?
Oui, c'est des attentats qui ont été très meurtriers. Ça a fait 199 morts, plus de 1000 blessés. Ça a eu lieu dans la gare de Madrid. Et en fait, le Premier ministre, José María Aznar, a essayé de faire passer ces attentats comme responsable l'ETA. Et puis en fait, ça avait tout un avantage pour lui parce qu'il allait avoir des élections quelques jours après en Espagne. Et en fait, on s'est aperçu que c'était Al-Qaïda qui a revendiqué les attentats. Donc ça a complètement planté son coup de politique.
Alors, vous me donnez énormément de détails. Est-ce que vous vous souvenez de ce jour-là, pour vous?
Ah oui, à titre personnel, je me souviens très bien. J'étais clouée au lit, j'avais une angine, je ne pouvais même plus parler. En plus, ça faisait déjà 4 jours que je ne pouvais plus parler. J'avais la gorge toute rouge. Et Anne n'était pas là, elle était en déplacement professionnel. C'était une journée horrible.
Et vous pouvez me donner d'autres détails sur le 11 mars 2004
Oui, il y a eu un bateau de pêche en Bretagne qui s'appelait l'Armand, qui a coulé, et en fait, ils ont pensé que c'était un cargo qui avait foncé dedans et qui avait pris la fuite.
Très bien. Et concernant la veille, le 10 mars 2004, vous pouvez me dire quelque chose sur ça?
Ah, le 10 mars, c'était les obsèques de Claude Nougaro. Et en fait, il y avait 10 000 personnes à Toulouse, c'était hyper émouvant.
Et le 12 mars 2004?
Le 12 mars 2004, il y a des tas d'islamistes qui, à Bahreïn, aux Émirats, ils ont manifesté parce qu'en fait, ils se rebellaient par rapport à une émission de télé-réalité qu'il y avait, qui était une émission d'amour, genre Love Story. Et ils trouvaient ça scandaleux. Et en fait, ils ont obtenu gain de cause. En fait, l'émission, elle a été interdite.
C'est quand même assez fascinant de pouvoir se souvenir de tout comme le fait Kim.
En réalité, de manière générale, les gens ont plutôt tendance à penser qu'ils ont une très mauvaise mémoire. En fait, ils pensent que, eux, par rapport à Kim, ils sont handicapés de la mémoire. Alors, il se trouve que c'est pas le cas. Souvent, quand les gens font un effort, ils ont quand même un accès assez étendu à leur mémoire, mais c'est pas direct. Donc, quand ils voient quelqu'un comme Kim, d'abord, ils sont complètement fascinés parce que ils peuvent pas s'empêcher de se dire que s'ils avaient un accès comme ça aussi direct à leurs souvenirs, ils pourraient régler tous leurs problèmes. Tous les problèmes d'aujourd'hui, tous les problèmes qu'ils ont maintenant et qu'ils essayent désespérément de régler, pardon monsieur, de régler sur un divan, s'ils avaient la possibilité, le pouvoir eux-mêmes de se souvenir que, je sais pas moi,
Quand ils avaient 3 ans, leur grand frère a déboulé dans leur chambre, a piqué leur petite voiture rouge et que ça a créé un grand traumatisme chez eux. Ben, au fond, ils se disent que ça, ça leur permettrait d'être soulagés, de régler tous leurs traumatismes, d'accéder au bonheur plus facilement. Et du coup, ils n'arrivent pas à voir que pour Kim, cette mémoire-là, c'est un fardeau. Le fait de se souvenir de tout ce qui s'est passé dans son enfance, ça ne va pas forcément l'aider à régler ses problèmes d'aujourd'hui. Je vais aller chercher une place là-bas.
Si vous me permettez, je vais citer Nietzsche qui disait que on peut vivre sans mémoire. Ça pose pas de problème d'un point de vue physiologique de vivre sans mémoire. Mais il rajoutait qu'il était impossible de vivre sans oubli. Là, on n'est plus dans la physiologie, on est dans la psychologie et on ne peut pas retenir tout de tout. Il y a un certain nombre de cas qui sont décrits dans la littérature. Alors certains sont fictifs, comme chez Borges, d'autres sont réels, comme chez Luria. Et ces cas de la littérature ont en commun qu'ils ont une absolue incapacité d'abstraction. Si nous n'avons pas de capacité d'abstraction, nous ne pouvons pas catégoriser. Et si nous ne pouvons pas catégoriser, eh bien, on est confronté à un certain nombre de problèmes. Borges, dans Funès sous la mémoire, évoque cette hypermnésique qui est incapable de traiter comme deux éléments différents un chien, un même chien, qu'il voit à un moment donné de la journée avec la gueule en face de lui, et à un autre moment, à peine un peu plus tard, en le voyant de profil. Une personne dont la mémoire fonctionne normalement est capable de traiter cette information comme appartenant au même élément, le même chien. Un hypermnésique verra tellement de détails qui différencient les deux situations qu'il ne pourra pas les regrouper sous une même entité.
Il est un tout petit peu abîmé ce... poivron, mais ça va aller. Hop. Certains aliments, j'essaye de d'éviter parce qu'en fait, je me souviens de la manière dont je les digère. C'est un peu bizarre, mais j'ai un souvenir comme interne de ce que ça me fait à l'intérieur du corps. Donc dès que je vois l'aliment, même sur le stand du marché ou au supermarché, je vais déjà être en train de penser à ce que ça va faire à l'intérieur. Mais de manière générale, je m'en fous un peu de ce que je mange, en fait. Je mange juste pour plus avoir faim. C'est un peu déprimant pour les gens autour de moi, parce que... déjà, je mets jamais de sauce. Jamais de sauce. Je fais toujours l'aliment à rien, à ce qu'il est, quoi. Avec son goût propre. Quand il y a une sauce, ça me perturbe.
Et vous mangez toujours la même chose, ou...
Non, quand même pas. Je mange pas toujours la même chose, mais j'ai mes bases. Mais c'est vrai que si pendant 2-3 semaines, je mange, c'est vrai, en fait, la même chose, ben ça va pas me déranger plus que ça, quoi. Donc, ce que je te disais, là, sur les souvenirs internes, j'évite de raconter, quoi. J'évoque un souvenir hyper lointain, hyper précis, et je vois la manière dont la personne me regarde. Elle pense que je suis en direct en train d'inventer quelque chose. Elle ne peut pas croire, puisqu'elle n'est pas capable de ça. Elle ne peut pas croire que je sois concrètement capable de me rappeler de quand j'ai mangé du poivron et que j'avais 18 mois. Alors il y a les gros débiles qui vont carrément me dire une date dans l'espoir que je déblatère comme Wikipédia ou comme un ordi tout ce qui s'est passé à cette date. Si j'ai un peu bu, je vais dire des trucs un peu folklore, quoi. Il y a des gens qui pensent je note tout pour m'en souvenir et que j'apprends par cœur.
Mais vous les avez déjà entendus dire ça?
Mais oui, mais tout le temps. Maintenant, je dis rien. Je fais mon autiste. Je fais la vraie autiste. La vraie de vraie. Pas la fausse, je fais la vraie. Je parle pas. Parce que je trouve ça lourd. J'espère que t'aimes les poivrons, parce que j'en ai fait beaucoup.
Ouais. À table ! Anne, tu peux venir ?
Ouais.
Ça y est, t'es prêt ?
J'arrive ! J'ai pas trop dit de conneries sur toi ?
Un peu.
C'est ça.
Donc moi j'ai rencontré Kim parce qu'elle est venue travailler pour nous pour un boulot saisonnier, donc c'était en été, pendant 2 mois. Elle est venue bosser dans ma boutique, elle était vendeuse et au début tout se passait bien, elle était plutôt efficace. Elle était assez impressionnante parce que donc on vend du prêt-à-porter et en général il y a énormément de références à retenir. Nous on met en général quand on vient de débarquer 1 mois pour tout retenir et elle c'est vrai qu'en une journée même pas elle avait déjà retenu toutes les références, elle savait exactement où se situaient les choses etc. Donc ça c'était vraiment impressionnant. Par contre petit à petit on s'est quand même rendu compte qu'elle avait des problèmes d'organisation, elle avait également des problèmes pour... gérer quand je lui demandais de faire une tâche et de la laisser se débrouiller pour faire cette tâche, elle mettait beaucoup de temps à s'organiser et parfois n'y arrivait même pas du tout et remontait toutes les 5 minutes de la réserve pour me demander dans quel sens il fallait qu'elle le fasse, comment il fallait qu'elle s'organise, est-ce qu'il fallait plutôt qu'elle commence par telle ou telle partie. Donc c'est bon, au bout d'un moment c'est vrai que ça a commencé à être un peu pesant parce qu'en fait il fallait tout le temps l'encadrer. Et parfois quand on a beaucoup de monde et que c'est par exemple en pleine période de solde, c'est vrai que c'était quand même pas facile de devoir lui dire à chaque fois ce qu'il fallait qu'elle fasse, dans quelle ordre elle devait le faire, etc. Donc on a tenu les 2 mois et c'est vrai qu'après j'ai pas forcément essayé de la réembaucher par la suite.
Où est-ce que vous nous emmenez là, Kim?
Ben, je vais passer un entretien pour un boulot. C'est pour être réceptionniste la nuit dans un hôtel. Je suis assez excitée. C'est tellement rare en plus que je sois rappelée après avoir envoyé un CV. Ça fait 6 ans que je n'ai pas payé le loyer. C'est Anne qui paye tout, quoi. Elle paye mon forfait de téléphone, elle paye la bagnole, elle paye tout.
Et la réceptionniste dans un hôtel, ça vous plaît ? C'est la nuit quand même.
Ouais, mais c'est génial. De toute façon, moi, je suis tellement insomniaque.
Et qu'est-ce que vous allez faire toute la nuit ? Parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire dans les hôtels la nuit quand même.
Mais vous n'êtes pas dans ma tête, mon cher monsieur. Il y a beaucoup de choses à faire dans ma tête.
Vous n'avez pas peur de vous ennuyer ?
Si seulement ! Mais si seulement ! Je peux m'ennuyer, mais ne serait-ce que 2 secondes. Mais juste me faire chier, juste penser à rien.
Station, Langstrasse, Grand Rue.
Avant, je lisais pas mal à une époque. Puis maintenant, ça c'est pareil, j'ai arrêté de lire parce que c'est la porte ouverte à nouveau tous mes tocs. Quoi. Je vais être en train de lire le bouquin et en fait, je vais avoir qu'une seule obsession, c'est de voir s'il y a des incohérences. J'ai arrêté de lire, j'ai arrêté de voir des gens. En ce moment, c'est pas hyper, c'est pas l'extase, quoi. Hyper glorieux quoi. Mais bon, je sais pas, c'est des périodes quoi. Bon, faut que je me remonte là, je suis en train de complètement déprimer. Faut que je me remette en mode youhou. C'est là que je dois descendre moi.
On est ici donc au carrefour où a eu lieu l'accident.
Oui, voilà, c'est ça. C'est maintenant que le médecin a levé son interdiction là, que de toute façon les flics ils l'ont contraint, hein, ils lui ont dit qu'au bout d'un moment il fallait faire la reconstitution et que donc effectivement c'est exactement là que ça s'est passé et c'est l'arbre qui est juste là dans lequel la dame a foncé là. Finalement, cet accident, ça, c'est marrant, ça m'a appris plein de trucs sur moi-même. Ce fait vraiment que je sois incapable d'accéder à un souvenir, c'est assez fascinant, quoi. En tout cas, ça me montre vraiment que si je ne fais pas attention à quelque chose, que peut-être que je pourrais réussir à le faire
un tout petit peu consciemment. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de flottement. En tout cas, cette idée de flotter, tu vois, de passer un tout petit peu comme avec des œillères ou comme avec les yeux mi-clos. Tu vois, ou si j'avais fumé ou quelque chose qui rend la perception moins précise. C'est vraiment ça que ça m'a appris, quoi. En tout cas, c'est... Je sais pas, tout d'un coup, ça m'est apparu comme une solution, quoi. Ce blackout m'a éclairé en quelque sorte. Il y avait un livre que j'avais quand j'étais enfant, ça s'appelait Le soldat caramel. Et en fait, le soldat caramel, il rêve d'aller planter une marguerite sur une autre planète. Et moi, je suis bien dans cet état-là. J'ai bien envie d'aller planter ma marguerite, quoi.
Vous diriez que c'est plutôt un atout ou une fatalité d'être hypermnésique ?
Je sais pas, je trouve ça un peu con. C'est sûr que pour moi, c'est une fatalité, c'est clair. Des gens, ils ont un ulcère au bide, d'autres qui sont gros, et d'autres, je sais pas, moi. J'ai ça, après, à moi de le transformer en atout, quoi.
Ça fait une demi-heure qu'on est revenu sur les lieux de l'accident. Enfin, c'est la première fois que vous reveniez. Est-ce qu'il y a des choses qui vous sont revenues depuis qu'on est là ?
L'accident ? Quel accident ?
C'était Hypermnésia, avec F. Schems de Brouwer dans le rôle de Kim, Charlotte Ricato-Persdorf dans le rôle d'Anne, Olivia Cohen dans celui de la journaliste, et avec Jean-Christophe Cassel et Olivier Després dans leur propre rôle. Citations et références, Alexandre Louria, Jill Price et Philippe Roth. Consultant scientifique, Jean-Christophe Cassel. Revue de littérature, Julia Seize. Merci à Dominique Lecoyer, directrice des études du TNS, Edith de Cornulier, Serge Bakchine, Francis Eustache, au QEJ et aux étudiants du Master de communication scientifique de l'Université de Strasbourg. Attachée de production, Christine Bernard, Alison Sinard. Productrice coordinatrice, Irène Omelianenko. Ce projet a pris forme grâce à l'association entre France Culture et l'Université de Strasbourg via le programme IDEX Culture, Sciences et Société. Une émission de Christophe Deleu et François Test pour Sur les Docs.